auditeurs de Mets de Résistance Radio 88.4, à Radio Galère à Marseille, une radio que toute la France écoute, ainsi qu'à Chalon-Champagne Radio Mono, si mon émission passe aussi lorsqu'il s'agit de Chalon ou du Grand Est sur ces ondes-là. Mais de toute façon, aujourd'hui, peu importe l'endroit et l'origine de la personne que j'interviewe, puisque il pratique un métier universel et international qu'on peut faire de partout, et on peut même voyager avec ce métier-là, qui est le métier d'écrivain. À plus précisément parler, Jean-Pierre Elstroffer, que vous connaissez déjà, puisque nous avons déjà fait une émission autour d'un de ses romans, Totem Misère, il y a quelques mois, est un écrivain. Ce n'est pas son métier, puisqu'il est à la retraite, et il en profite pour écrire des romans. Il n'en est pas son premier roman, Jean-Pierre. Ça fait combien, t'en es à combien de romans ?
Eh bien, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Actuellement, je suis au sixième, en train de finaliser le septième roman. Et en ce qui concerne Voix Off, c'est un roman qui est sorti juste après Totem Misère.
Très bien. Alors, ça, justement, c'est très intéressant de savoir, parce que j'ai un peu analysé le roman, moi j'aime beaucoup analyser les romans, j'aimais beaucoup Émile Zola quand j'étais petite, il y a des romans à lui que j'ai lu plein de fois, parce que j'aimais beaucoup son obséquiosité dans sa façon d'écrire, sa manière de se pencher de très près sur les caractères des personnages, et notamment leur travers. Une chose que des fois je retrouve un peu dans votre écriture, on en rediscutera. Sauf que parfois chez vous elle est toujours plus positive et il y a toujours un objectif qui est d'aller vers quelque chose de positif. Alors que pour Émile Zola, à part Octave Mouret dans Au bonheur des dames, tous les romans sont négatifs. Mais bon, et puis en plus, il y a la question de l'hérédité qui est très importante chez vous et qu'on retrouve très fort dans Voix Off. Et qui existe et qui sous-tend toute la série des Rougon-Macquart chez Zola. Il n'y a qu'une personne qui, on ne sait pas par quel miracle génétique, échappe à cette espèce de fatalité de l'hérédité, qui est Octave Mouret. Mais on en rediscutera tout ça. Et parce que chez vous, il y a aussi quelqu'un qui échappe, et ça c'est très intéressant. Moi j'adore, c'est un de mes passe-temps préférés, faire de la psychologie de bas étage, entre guillemets, on va dire, sur les romans. Et faire des rapprochements avec des écrivains de toute époque, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la littérature est un art universel et international et aussi intemporel. Donc voir, ça suit Totem Tabou. Totem Tabou, c'est un roman qui est très très noir, on a déjà discuté. J'invite nos auditeurs à venir réécouter l'émission précédente qu'on avait fait avec Jean-Pierre sur ce roman-là, qui discute d'un homme qui a toujours vécu dans la misère, qui est allé mendié, qui a vécu dans un monde où il n'y a pas d'amour. C'est un monde sans humanité. Quand on n'a pas d'amour, c'est très difficile de se faire du bien et de faire ce qu'il faut pour réussir sa vie. Et souvent, on a beau être très intelligent, on se retrouve quand même à la rue et démuni de tout. Il faut, pour pouvoir s'en sortir, être bien entouré. Donc, Totem Misère raconte cette malheureuse histoire d'un homme qui n'a trouvé personne d'autre pour l'aider à s'en sortir qu'une infirmière elle-même, ayant souffert d'un désamour important, qui le pousse au meurtre. Donc, c'est que du noir, c'est que de la noirceur. Quand on s'intéresse à vous, Jean-Pierre, c'est difficile au début, on se dit, zut, qu'est-ce qui va m'arriver ? Puisque, a priori, quand on lit ce roman-là, il y a beaucoup de noirceur, il y a du meurtre, il y a du sang, il y a de la cruauté et de l'obscénité, jusqu'à l'obscénité parfois. Hein. Mais en même temps, il y a toujours quelque chose de positif qui ressort de tout ça, qui fait qu'on a envie de mieux vous connaître et de mieux connaître vos romans. Et Voix Off, alors dans Voix Off, il y a autre chose. Il y a aussi un petit peu de noirceur, on en rediscutera, mais il y a aussi une formidable envie d'arranger les choses et de retourner dans une espèce de quiétude que procure la maternité. Donc la maternité, ça peut être la maternité pour soi, c'est-à-dire la femme qui est en situation de maternité, mais ça peut être aussi la maternité en soi, pour reprendre les termes de Jean-Paul Sartre. Et là, il s'agit particulièrement de maternité en soi. Vous, Jean-Pierre, vous montrez que La quête de l'être humain n'est rien d'autre qu'une perpétuelle recherche de cette maternité que parfois il a ratée ou à côté de laquelle il est passé. Et donc c'est ça ce que j'appelle la maternité en soi, c'est l'archétype de la maternité qui ressort très très fort. Et puis en même temps il y a aussi la maternité pour soi, parce que nous verrons que nous n'avons pas que des êtres humains comme personnages, et que le personnage principal du roman reste une péniche qui a été faite par un des personnages principaux. Il a fait les plans, il l'a construite lui-même, il a eu tous les métiers pour la faire, et elle constitue un personnage à part entière qui, elle, met en avant cette maternité pour soi. Elle est mère, elle accueille dans son ventre. Je vous laisse, Jean-Pierre, peut-être rebondir et nous expliquer dans quel contexte vous avez écrit ce roman, qui après la barbarie, la cruauté à l'état brut, qui est dévoilée dans le livre « Totale misère », qui nous montre à montrer la misère dans sa plus cruelle nudité. Pourquoi vous avez écrit voix off qui semble comme un appel vers une espèce de rédemption?
Une rédemption, oui, peut-être ou peut-être pas, parce qu'en réalité voix off, on peut le regarder, la totalité de l'intrigue de voix off, une forme de huis clos, on pourrait dire, presque en pleine nature. La totale intrigue se déroule dans le monde du canal. Alors très volontairement, j'ai décalé l'histoire dans un monde assez singulier, les années 80-90, où il n'y a pas d'internet, où il n'y a pas de téléphone portable, où en réalité, une époque où les hommes, s'ils veulent communiquer, dans l'idée de vouloir communiquer, ne peuvent communiquer qu'avec les moyens du bord, si on peut dire, en restant sur l'image du canal, en se parlant les uns aux autres, et peut-être en commençant par se parler à soi-même. Ça, c'est le fond d'écran de voix off. La deuxième chose que j'ai voulu commettre dans voix off, c'est de démontrer que une douceur, et rien n'est plus doux que l'eau d'un canal, puisqu'on a le sentiment qu'elle est totalement immobile, qu'une douceur peut malgré tout apporter beaucoup de noirceur, et cacher beaucoup de noirceur. Et que tout individu qui vit, qui respire, qui bouge dans cet univers qui nous entoure, tout en étant relativement anodin, aussi transparent que l'eau peut l'être, tout individu peut avoir en soi une dose, une charge à la fois de noirceur, mais en même temps aussi de douceur, parfois un petit peu enterrée, un petit peu oubliée, parfois noyée, et que tout cela ne demande qu'une chose, comme le fait l'écluse avec la péniche qui voudrait passer de l'autre côté, tout cela ne demande qu'à se mettre à niveau.
Alors vous avez très bien parlé, puisque justement j'allais vous demander pourquoi avoir écrit ce roman dans une écluse, en qui plus est en Bourgogne, sur le canal de Bourgogne, entre guillemets, que j'ai fait il y a 2 ans en vélo. J'ai vu des tas d'écluses, et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce lieu-là? Et puis c'est vrai que vous avez raison, l'écluse, on est un peu en stand-by. Il y a une mise à niveau qui se fait, parce que tout un chacun connaît ce que c'est qu'une écluse, le principe. Le bateau arrive, il est à un niveau au-dessus du canal, de la suite du canal, et on est obligé de le faire passer à travers une écluse où on fait monter l'eau progressivement, où on fait descendre l'eau progressivement, pour qu'il retrouve le niveau de la suite du canal. C'est très intéressant, cette idée de passage à niveau, de mise à niveau. C'est une mise à niveau entre les gens. Donc là, il y a 2 questions, c'est pourquoi l'écluse et la mise à niveau ensuite.
Ah oui, c'est intéressant ce que vous dites, Nora, parce que là, on touche, la genèse de l'écriture. En réalité, la question, c'est quel est le déclencheur du roman? Tout roman a un déclencheur, tout roman a une sorte de clé de contact. Voilà. Si vous prenez, on parlait tout à l'heure de Totem Misère, il y a en exergue une toute petite phrase tirée de Céline où il parle de la misère et des pauvres qui sont drôlement fadés en ce qui concerne la misère que Céline pouvait observer à l'époque. Si on revient sur voix off, le déclencheur, et je peux garantir que l'anecdote est totalement vraie, le déclencheur qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre est un simple vers de M. Victor Hugo. Je l'ai d'ailleurs fait figurer en exergue au tout début du bouquin, où Victor Hugo dans les voies intérieures, dit « Tout ce qui souffre est plein de haine, tout ce qui vit traîne un remords. » Donc c'est une phrase qui est absolument gigantesque dans l'amplitude de Victor Hugo, mais gigantesque également dans sa signification, parce qu'il faut remettre ça dans le contexte historique, daté. Victor Hugo, c'était pas hier. Et malgré tout, cette phrase est d'une modernité pure et absolue. Tout ce qui souffre est plein de haine. C'est effectivement, quand on regarde la société qu'on a aujourd'hui autour de nous, un constat immédiat, flagrant, qui nous saute au visage. Donc quand je suis tombé sur cette phrase, j'ai marqué un petit temps d'arrêt. J'ai relu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et je me suis aperçu qu'à travers le message de Victor Hugo, il y avait une forme de diagonale qui est existante, évidente, entre la haine et le remords. Et effectivement, Victor Hugo, quand il parle de la haine, il dit qu'en face, il y a un remords, et quand il parle du remords, il dit que ce remords pourrait très très bien venir d'une certaine haine, laquelle on ne sait pas exactement, la haine peut être multiple et le remords peut être très varié. Mais malgré tout, en réfléchissant sur cette phrase, je suis arrivé assez rapidement d'ailleurs à l'idée des vases communicants, et en m'interrogeant sur des phénomènes de société. Vous avez par exemple le syndrome de Stockholm. Vous savez, cette petite bizarrerie psychologique qui consiste à dire que le bourreau prend la victime, pardon, prend la défense du bourreau.
Oui.
C'est quand même très paradoxal. Or, les psychologues, dans le siècle actuel, se sont réellement penchés sur ce phénomène et ont admis effectivement qu'il y avait une relation entre ces deux extrêmes, qui paraissent totalement infranchissables, mais une relation qui existe. Et de tout cela, je suis arrivé à cette notion, à ce dessin des vases communicants, et je me suis aperçu très brutalement que les meilleurs des vases communicants que l'homme n'ait pu jamais construire ou inventer, ben c'est effectivement le phénomène de l'écluse. Tout est attaché. Si ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. Et puis en même temps, je me suis dit que ce décor de l'écluse, ce canal, avec cette eau apparemment immobile, mais qui malgré tout bouge et a un certain mouvement, bah, serait un décor formidable pour écrire une très belle histoire. On aurait donc une histoire qui s'écrirait au bord d'un canal où apparemment rien ne se passe, une histoire où on aurait des montées et des redescentes, non pas très visuelles, non pas immédiates, non pas réellement perceptibles, mais tout à fait significatives, entre la haine d'un côté et le remords de l'autre. Et voilà comment voix off se dessine. Alors il restait une chose à déterminer dans cette histoire, avant de l'écrire, c'était qui allait raconter l'histoire. Le fameux narrateur que l'on peut poser et que l'on doit poser lorsqu'on écrit, lorsqu'on veut écrire un roman. Alors il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a parlé des narrateurs omniscients, omniprésents, de la focalisation interne, externe. Bon, tout cela existe naturellement. Et j'ai voulu moi donner une petite image un petit peu particulière en partant du principe, alors qui est assez commun, c'est que la plupart du lecteur s'y retrouve, si l'on peut dire, en termes de narrateur, avec un personnage du livre. C'est l'histoire de Pierre et Paul, et c'est Pierre qui raconte l'histoire de Paul. Bon, ben, jusque-là, tout va bien. Mais moi, dans cette histoire, où on a un certain nombre de personnages, ils ne sont pas très très nombreux, il y en a quelques-uns, peut-être une dizaine en tout, mais j'ai décidé dès le départ, dès la première page, que le narrateur ne serait pas un personnage. D'où le titre voix off, d'ailleurs. Une voix off, ben, c'est tout simplement l'image que l'on voit à la télévision, qui vous subjugue d'ailleurs, parce que c'est un très beau documentaire, et cette voix qui parle derrière. Alors, est-ce que l'image est plus forte que la voix? Est-ce que la voix est plus forte que l'image? Ben, je serais tenté de dire que dans un documentaire correctement construit, il y a un juste équilibre entre les deux. C'est ce que j'ai voulu faire dans ce bouquin, en mettant un équilibre entre l'histoire telle qu'elle se déroule, le long de ce canal, et puis ce narrateur. Alors, ce narrateur, il est assez singulier. Bon, il faut arriver aux alentours de la 60e page pour réellement comprendre de qui il s'agit, et pourquoi la 60e page? Parce que j'ai voulu que ce narrateur arrive aussi doucement que l'eau du canal. C'est pas une cascade, hein, c'est au contraire quelque chose de très progressif. Et voilà comment voix off, c'est tranquillement, gentiment, doucement, mis en place dans ma tête, et par la suite sur le papier.
Très judicieux l'idée d'une voix off qui fait les commentaires et qui permet au lecteur de mieux comprendre où il est à travers des personnages qui sont relativement complexes. Chers auditeurs, je vais quand même vous et Jean-Pierre, j'ai résumé rapidement l'histoire du roman pour qu'on s'y retrouve un peu, mais sans raconter la fin, bien sûr. Donc je vous explique, chers auditeurs, pour que vous y retrouviez un peu mieux. Oscar épouse la jeune et jolie Thérèse qui papillonne. Ils vont habiter une petite maison près d'une écluse de par le métier d'Oscar, qui est le métier de...
Alors, le métier d'Oscar, au début, il était ingénieur.
Oui.
Au canal. Alors, les ingénieurs au canal, à l'époque que je décris, avaient un rôle très important, parce que vous savez, un canal, c'est quelque chose qui se construit, qui s'entretient, qui se calcule. D'accord ? Il faut bien comprendre que lorsqu'on fait une bassinée, la bassinée, c'est le volume d'eau nécessaire pour faire passer une péniche d'un côté ou de l'autre, l'eau tombe du ciel parfois, mais pas toujours. Donc il faut bien que les calculs soient faits au plus juste. Et c'est là tout le rôle des ingénieurs au canal, de calculer les approvisionnements, les sources qui vont permettre de... Et puis un jour, Oscar, dans un malheureux accident de travail, de navigation, on va dire, va se retrouver amputé, handicapé, et il ne pourra plus assumer, physiquement parlant, son rôle d'ingénieur. Mais comme il est tellement attaché au canal, il veut rester au bord du canal. Et donc il va renoncer à toute cette notion d'ingénierie et de qualificatif qui l'accompagne. Et Oscar va accepter, va supplier pour devenir tout simplement un éclusier. Parce qu'un éclusier, c'est quand même celui qui fait passer.
Le lieu du passage. Alors, d'ailleurs, ça fait beaucoup penser au mythe mythologique, au mythe grec, de l'Antiquité grecque, du passage dans l'Hadès, par le fleuve, comment il s'appelle, le Styx,
hein.
Avec Chauron. Oscar, il s'installe avec la jeune et jolie Thérèse. Thérèse le trompe avec de jeunes étudiants, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jean Salia, un jeune homme. Oscar construit une péniche qui deviendra le personnage principal du roman, la voix off. Thérèse a un fils avec Jean Salia, François, qui deviendra Théo. C'est François qui l'élève. Thérèse a un jour un accident de la route avec Jean Salia, le jour de l'anniversaire de son fils François, qu'elle avait dédaigné. Elle devient hémiplégique et ne peut plus parler ni marcher. François grandit et tombe amoureux de Fanny, la postière, qui roule en quatre ailes jaunes de la poste. La péniche est toujours là. Fanny et François se séparent. François prend la place d'Oscar à l'écluse. Il devient Théo. Alors Théo, c'est parce qu'en fait, ses parents sont morts. Il a gardé leurs photos. Il prend les deux premières lettres des prénoms de chacun. Donc T pour Thérèse et O pour Oscar. Les premières lettres du prénom de chacun. Fanny accouche toute seule d'une petite fille, Lila. On saura plus tard qu'elle en fait, elle s'est fait violer dans la péniche par Jean Salia et qu'elle n'a pas pu épouser François qu'elle aimait. Lila, en grandissant, écoute sa mère lui raconter les histoires de sa famille. Fanny meurt. Lila part toute seule et va à l'écluse. Elle rencontre Théo, qui en fait, elle ne le sait pas, mais est son demi-frère, qui l'héberge dans la péniche et il tombe un peu amoureux d'elle. Donc c'est une histoire qui parle un petit peu d'inceste. Et puis elle veut se venger et elle retrouve Jean Salia, qui à l'époque tient une auberge sur l'écluse. Et il finit par mourir. Et en fait, Jean Salia est son père. Elle veut venger sa maman. La péniche joue le rôle d'une mère accueillante et accoucheuse. Lila dort dans son ventre, puisque Théo l'héberge. Donc, déjà, la première chose que je voulais vous poser comme question, Jean-Pierre, que je voulais te poser, je ne sais plus si on se tutoie ou pas, c'est pourquoi est-ce que tu as écrit ce roman-là ? Pour faire quelque chose d'un petit peu plus léger après la noirceur
de
Totem ?
Oui, peut-être, oui. Mais en même temps, je voulais démonter un peu la mécanique psychologique. Peut-être expliquer, mettre à la portée du lecteur, à travers l'écriture, ce que peut être parfois la vie apparente et la vie cachée. Alors, des hommes, mais aussi la vie cachée des choses. Si on vient sur les prénoms, François s'appelle François, mais c'est un prénom qui lui allait bien. Sauf que ce prénom n'a jamais été accepté, il a toujours été refusé. Alors refusé en tant que prénom, refusé en tant que fils, tant par la mère que par le père. Un peu refusé par tout le monde. Il n'y a guère que les berges du canal lorsqu'il tapait dessus pour redresser les pales planches, ou avec sa faux pour faucher les bollards, qui lui permettait de se faire comprendre et de se justifier dans sa vie. Donc voilà, alors les parents disparaissent, et le pauvre François est bien malheureux, d'autant plus que les parents disparaissent le jour où Fanny va disparaître. Alors pas disparaître physiquement, mais disparaître de son amour. Donc tout cela est beaucoup trop compliqué pour un garçon comme François. Il faut quelque part rembobiner la cassette. Alors on parlait de la voix off, mais il faut comprendre aussi que dans ce roman, il y a naturellement le narrateur, ce fameux narrateur silencieux qui est tout simplement le narrateur principal parce que lui connaît toute l'histoire. Il a été construit comme un exutoire. Il a été construit pour que l'histoire puisse un jour se transmettre et les membrures qui constituent son ventre ne sont remplies que des souvenirs d'Oscar lors de sa construction. Donc tout ceci, bien sûr, joue un rôle, mais si on suit l'histoire du bouquin au fil de l'écriture, on s'aperçoit que les objets parlent. Chaque objet a une certaine charge émotionnelle à transmettre. Ça peut aller des cassettes que Fanny a pu enregistrer pour expliquer certaines choses à sa fille, mais ça peut aller aussi du miroir dans lequel Théo se regarde tous les matins, et dans lequel Théo ne trouve pas mieux que pour répondre à son image que de lui faire des grimaces. Donc voilà un petit peu la constitution du roman. Alors maintenant, pourquoi il a été écrit? C'est ce que je disais au début, peut-être pour démontrer que l'individu, quel qu'il soit, un simple éclusier, un simple patron d'auberge ou un garagiste qui s'amuse à regarder les photos des voitures sur le papier glacé, tout ceci a quand même une certaine charge émotionnelle. Et contrairement à ce qu'on croit, les gens qui ne bougent pas ne sont pas les gens qui remuent le moins.
Alors, vous allez peut-être vous moquer de moi parce que c'était un parti pris, parce que j'ai vu votre roman avec mes yeux de femme, et avec son vécu à elle, ses habitudes à elle et ses affects. Mais moi, j'ai fait une grosse comparaison. Ce livre est pour moi une tentative de saisir la femme et plus particulièrement la mère. D'abord, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. L'écluse, c'est la numéro 7, elle existe vraiment? Vous êtes passé à côté? Vous la connaissez? Sur Canal?
Non, je la connais pas. Tout est réellement fictif dans cette histoire, mais comme disait Simenon, tout est vrai puisque je l'ai inventé. Donc non, le lieu tel que je le situe dans le roman, un joli coin du canal de Bourgogne, je connais un peu le canal de Bourgogne, il est magnifique, mais bon, en réalité, je regrette presque d'avoir figuré ce repère géographique de Bourgogne, parce qu'on pourrait imaginer que tout canal puisse convenir et que tous les canaux de France ont quelque part, à mon avis, dans toutes ces maisons qui grouillaient le long des chemins de halage, il y a une multitude, des centaines et des milliers d'histoires qui s'y cachent. Donc voilà quoi.
Alors, d'abord, on est dans un triangle. Le triangle, ça vous appelez le triangle de poussière. Alors, oui. Il va falloir m'expliquer pourquoi, et aussi expliquer pourquoi un triangle. Est-ce que c'est en référence? Vous savez que le triangle, c'est une forme géométrique qui est particulière. Et notamment, elle représente entre autres, c'est le symbole de la franc-maçonnerie, entre guillemets. Pourquoi le triangle? Et pourquoi est-ce que triangle de poussière, concrètement, de quoi il est composé ce triangle?
Alors, techniquement parlant, le triangle est très simple. Un des premiers sommets du triangle, c'est l'écluse. Cette écluse a un rôle important, naturellement. Le deuxième point du triangle, ça sera l'auberge. Et Nora en parlait tout à l'heure avec un patron d'auberge assez singulier, Jean Salia, qui est un ancien militaire qui vit avec sa serveuse, ou sa servante d'ailleurs, ça dépend un peu des jours. Il l'appelle Indochine, donc voilà, ça situe un peu le personnage. Et le troisième point du triangle, c'est le garage. Alors le garage est naturellement occupé par un garagiste qui fait un peu de mécanique fluviale, qui fait un peu de mécanique agricole, qui veut bien faire de la mécanique dès l'instant que c'est de la mécanique avec de la ferraille. Voilà. Et il déteste naturellement le bois, comme tout mécanicien, comme tout ferronnier. Et il déteste naturellement Oscar, l'éclusier, qui lui a construit une péniche. Mais il a construit une péniche qui est assez singulière, puisqu'il l'a construit en bois. Alors rien que ça, ça va suffire, voyez-vous, ce genre de petits détails, pour que la haine se mette en place. Je parlais tout à l'heure de Victor Hugo, de la haine et du remords. Et que la haine se mette en place tout simplement parce que Oscar n'a pas eu la bonne volonté, la bonne idée de construire avec de la ferraille, mais de construire avec du bois. Ensuite, sur la forme du triangle, ben c'est très simple. Le triangle est une figure géométrique la plus simple possible, okay, mais qui offre le maximum de résistance possible. Le triangle est indéformable. Donc, quels que soient les événements, quels que soient les choses et les êtres qui pourront passer sur ce triangle de poussière, rien ne changera, tout sera immuable. Et quand on lit l'histoire de voix off, c'est de cela qu'on s'aperçoit. Théo, ex-François, ne voit rien évoluer dans sa vie. Les jours passent, les semaines défilent, les mois et les années, et les péniches continuent de passer, un petit peu indolentes, un petit peu indifférentes. Et avant Théo, c'était effectivement Oscar, son père, qui faisait la même chose, et qui se battait avec la ventelle, qui veut tout le temps remonter et faire fuir au niveau du sommier. Et puis la fameuse Thérèse, l'ancienne postière dont parlait Noura, qui à cause d'un bête accident est devenue très tétraplégique, mais qui vit malgré tout, dans l'expression la plus élémentaire, qui vit au bord de ce canal. Et ce canal, il restera tel qu'il est. Quant à l'aubergiste, le troisième point du triangle, lui c'est la même chose. Voilà. Il est né dans ce triangle et il vivra jusqu'au bout dans ce triangle. Il n'y a peut-être qu'un seul élément qui pourrait perturber le triangle, c'est notre fameuse Indochine, vous savez, cette petite serveuse dont je vous parlais tout à l'heure, et qui peut-être, pour ceux qui liront le bouquin, comprendront que Indochine a peut-être un rôle essentiel, ok, mais totalement silencieux dans la finalité de l'histoire.
Alors, il y a une vie avec... Pardon. Il y a une vie avec des habitudes, un manège, le manège d'amour de Thérèse, puis une brisure vers les pages 50, donc au début du roman. Thérèse porte le même nom que dans l'insoutenable légèreté de l'être de Kundera, de Milan Kundera, l'écrivain tchèque, mais elles n'ont pas les mêmes droits. Quoi qu'il arrive, la Thérèse de voix off est punie aussi, alors que l'autre Thérèse était punie, mais cette Thérèse-là, elle s'en sort, alors que notre Thérèse à nous, la vôtre, elle ne s'en sort pas. Elle a commis un crime de lèse-majesté, on en reparlera. On lui prend sa mobilité, sa capacité de s'exprimer, alors que la Thérèse de Milan Kundera, elle, pour s'émanciper, peut prendre des photos. L'autre Thérèse n'a plus rien, comme si on l'avait trop donné au départ. Alors ça, c'est très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Parce que y a un archétype, un personnage principal qui est très important, c'est celui de Milan Kundera, notamment sur le sort des femmes à l'Est et le rapport à la maman entre femme et mère. Et là, on retrouve un peu tout ça. Thérèse ne nous parle pas de sa mère, mais elle nous parle de son mal-être, de son désir de plaire et cette recherche qu'elle fait autour de tous ces jeunes garçons avec qui elle a des aventures. Puis, bien sûr, elle tombe dans le panneau de Jean Salia, elle s'ennuie avec son mari, elle trompe d'abord son mari, et puis après elle a un petit garçon et elle s'en occupe pas, et elle est donc punie. C'est la tragédie féminine, le péché d'Ève. Elle a un accident de voiture, Jean Salia avec qui elle couchait et sortait n'a rien, et elle perd toute sa mobilité, même celle de parler et de marcher. Ça c'est très cruel, c'est très très dur. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous l'avez ressenti? Moi j'ai vraiment ressenti ici un renouveau de cette noirceur qui est forte dans certains de vos livres, où le héros est puni. Mais il est puni de manière assez barbare. Et là, quand même, elle se retrouve au fauteuil roulant, elle ne marche plus, elle ne fait plus rien. Est-ce qu'on peut en parler?
Oui, on peut en parler. C'est vrai que la punition apparente de Thérèse est une punition, une cruauté, je dirais, un peu paysanne, un peu rustique. Voilà. Mais derrière cela, il y a peut-être aussi une autre dimension qu'il faut regarder dans la punition de Thérèse. En réalité, la punition immédiate, bah, c'est effectivement cette paralysie. Bon, elle ne peut plus marcher, elle est dans un fauteuil, et avec une paralysie qui se complique, puisque cette paralysie s'accompagne d'une aphasie, elle ne peut plus parler. Son seul moyen de communication, ce sera une ardoise avec une craie. Mais il y a derrière ça, je dirais, une image qu'il faut quand même regarder, c'est que Thérèse a eu une attitude vis-à-vis de sa vie. Thérèse n'a pas mérité d'avoir la vie qu'elle a eue. Thérèse n'a pas mérité la bonté, la gentillesse et l'amour que Oscar pouvait lui donner au début. Thérèse n'a même pas su convaincre Jean Salia qu'il fallait être fort et généreux avec elle. Vous imaginez bien, cher auditeur, que du jour où Thérèse aura cet accident, Jean Salia n'aura qu'une idée, c'est de tourner la tête. Et surtout dans tout cela, dans l'idée de la mère dont on parlait au début, c'est que Thérèse n'a pas su donner la moindre once d'amour, mais d'amour respectueux à son seul fils François. Ce sera d'ailleurs tout le problème de Thérèse dans les mois et dans les années qui vont suivre cet accident.
Justement, je proposais de vous lire un petit passage du livre où on parle justement de la haine de François, liée au manque d'amour de la mère et au fait que son papa était un peu froid avec lui parce que c'était pas son vrai fils. À l'école, François ne fait pas carrière, les études ne l'intéressent pas. 16 ans suffiront pour endiguer l'essentiel que sa vie doit connaître. Oscar fait les quelques démarches nécessaires et François a le droit de se compter parmi les gens de la fluviale. Affecté le jour à l'entretien des berges, on le voit fréquenter le long halage. Armé de son focard, il y tranche net les hautes herbes. La serpe taille à vif dans la moindre repousse de baliveau et la coupe laisse voir les entailles laiteuses faites dans le bois vert au ras du sol. Ces nouvelles taches blanches appartiennent à François et dessinent dans l'herbe verte autant de nouvelles signatures. Sans doute voit-il dans tous ces nouveaux gestes et une capacité soudaine à modifier les choses. D'une place encombrée, son geste et sa faux rétablissent l'ordre. François devient utile, mieux, efficace. D'autres matins, il s'échine à la masse, au redressement d'une pâle planche, tordue sous la poussée des terres. Qu'importe, rentrer dans l'eau jusqu'aux genoux, François frappe fort et dur jusqu'à ce que l'insolente reprenne l'alignement décrété. Avec François et au bord de son canal, les choses doivent s'exprimer avec droiture, sans faux fuyant, mues sous sa propre volonté et décision. Plus que l'entrain ou l'amour du travail bien fait, c'est sa propre fureur que François apprend chaque jour à maîtriser. Des 4 années qu'il passera à l'entretien des berges, le canal ne lui apportera qu'une seule chose, un exutoire à sa haine, un défouloir à sa colère, un compromis à sa misère. Chacun aura fait son métier. François aura entretenu, le canal aura canalisé. Le soir, il retrouve l'écluse, la fatigue d'Oscar, l'indifférence de Thérèse. Il joue l'effort à la manœuvre, le premier et le plus rapide sur la crémaillère. Oscar bougonne pour la forme et François prend l'habitude de cracher dans l'eau. Doucement, la haine trouve sa voie. Oui, parce que justement, le roman va dans une seule direction, qui est la mort de Jean Salia, cet homme, ce violeur, comme vous le dites si bien, si on a le temps de lire le passage, qui est superbe, on le lira, qui flétrit la beauté et la vie de jeunes personnes qui ne demandent qu'à s'épanouir, et qui les étouffe sous son joug en ne pensant qu'à sa personne. Et en fait, Jean Salia, c'est le père de François et aussi le père d'un personnage qui apparaît un peu plus tard, Lila.
Lila.
Lila. Ils sont demi-frères et demi-sœurs, tous les deux. Leur maman, toutes les deux, étaient victimes de Jean Salia. Thérèse, Jean Salia a beaucoup profité de Thérèse quand elle était encore valide. Il l'a emmenée avec lui partout, il a beaucoup profité d'elle au lit aussi. Et puis pareil, Fanny, après, une fois que Thérèse est hors état de continuer à fonctionner, qu'elle est dans le fauteuil roulant, qu'elle ne peut plus parler, c'est une jeune femme, Fanny, la postière qui prend sa place, bien contre son gré, puisqu'en fait, Jean Salia la viole dans la péniche qu'a construit Oscar, le mari de Thérèse. Et donc, François est le fruit des amours tronqués de Thérèse et Jean Salia, tout comme Lila est le fruit des mauvaises amours de Fanny et de Jean Salia, des fausses amours de Fanny et de Jean Salia. Il y a des phrases superbes, mais le temps passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de tout dire. Moi, j'aurais aimé en dire plein d'autres. Et simplement, j'aurais aimé qu'on discute ensemble de cette noirceur qui, chez vous, ici, dans le livre, on sent que vous attendez, enfin du moins en tant qu'écrivain, quelque chose des femmes. On sent d'abord la recherche de la mère, mais aussi la recherche de l'éternel féminin et peut-être une certaine perfection féminine. Il y a une noirceur, d'ailleurs la mauvaise mère, celle et la mauvaise épouse est tellement punie qu'elle peut ni marcher, ni bouger les bras, ni parler. Et puis il y a les anges. Un passage, si j'arrive à le retrouver, je serai contente, où vous parlez de François qui découvre les femmes, puisque sa mère, c'est pas une femme, puisque d'abord, il la voit jamais, quand il est tout petit, et puis après, elle a un accident et elle est en fauteuil roulant. Et donc, page 127, on a François qui découvre les femmes, et vous dites, vers l'âge de ses 12 ans, il découvre dans son imaginaire les anges. Page 127. Quelques-uns de ces anges prennent le quart tous les matins.
Vous voulez que je vous lise ?
Ah bah oui, ça changera un peu.
Ah bah c'est vous, là, voilà.
30 secondes. Alors, où est-ce qu'on est là ? Ah oui, c'est ça. Alors attendez, que je remette un peu l'auditeur un peu dans le contexte. François va à l'école, naturellement, comme beaucoup d'enfants. Et il prend le quart. Alors, là, il y a un petit passage qui explique l'attitude de François dans le quart. Voilà ce que ça donne. Pour François, il y aura bien les années d'école. Dans la lumière grandissante du matin, le quart l'emmène jusqu'à la ville pour le ramener le soir dans une lumière déclinante. Pas d'autre rythme que ces balises déchirantes. Le matin, François quitte son île. Le soir, les feux de l'écluse sont un phare. La ville et l'école n'apportent rien de meilleur au jeune François. Il apprend, bien souvent du par cœur, mais n'arrive pas à savoir. Ne pas savoir comment se faire aimer, comment aimer, pourquoi haïr, pourquoi haïr, pourquoi. C'est de cette époque, devant cette résignation à ne pas comprendre, que François se mettra à parler aux choses. Les choses peuvent être des objets, des ambiances, et vers l'âge de ses 12 ans, il découvre dans son imaginaire les anges. Quelques-uns de ces anges prennent le quart tous les matins. Ils ont les cheveux blonds et longs, portent des jupes ou des robes, rarement des pantalons, collectionnent et s'échangent entre eux de toutes petites choses, ne conjuguent pas la troisième personne comme les garçons, se chuchotent d'oreille à oreille. Les anges sont des filles. Les anges sont inaccessibles, inaccessibles et aveugles. Jamais un regard pour François, elle le voit bien mais ne le regarde pas. À 14 ans, s'arrêtant d'y croire, bloqué dans sa timidité de pauvre, il ne contrôle ses longues séances qu'assis sur la pierre de l'écluse.
Merci beaucoup. Oui, alors j'allais dire... qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, il y a les anges. Donc, il y a la mauvaise mère, il y a le mauvais côté, puis il y a l'ange. Alors là, c'est toujours une jeune fille. Et l'ange, c'est ensuite Fanny, il y a une espèce de lumière, de luminosité. Vous connaissez le personnage de Marie dans L'étranger d'Albert Camus ? Eh bien là, Fanny a la même luminosité. On la suppose blonde, dans une quatrelle jaune. Et cette luminosité, elle est tellement importante qu'on n'a même pas besoin d'entendre parler le personnage. On ne l'entend jamais parler, Fanny. On sait qu'elle est passée, elle a existé, qu'elle était très amoureuse de François, qui ensuite s'est appelé Oscar. Vous l'oubliez son prénom pour certainement jeter une croix sur son passé. Et puis, elle ne peut pas se marier avec lui parce qu'il y a Jean Salia qui la viole. Ou dans la péniche même. Et donc elle tombe enceinte. Et donc du coup, elle part ensuite parce que comme elle est enceinte de quelqu'un d'autre, elle ne peut pas se marier avec l'amour de sa vie. Et c'est tout ce qu'on a de Fanny, mais elle est quand même très présente. On a l'impression que c'est elle, la gardienne du foyer, la gardienne du roman.
Oui, mais si je peux rajouter une chose, Noura, c'est que le roman s'appelle Voix Off. J'ai expliqué au début techniquement parlant, que le narrateur n'était pas un personnage. Et on a donné quelques pistes pour expliquer que le narrateur, en réalité, était un objet, on pourrait dire une chose, alors d'une certaine importance.
Au début, un chêne.
Voilà.
Pour moi, je me suis dit, le chêne, c'est le père. Mmh. Et ensuite, une péniche, c'est la mère.
Voilà, tout à fait. Très bien. Ah, bravo, bravo. Mais il y a aussi une deuxième voix off dans le roman. Une voix off dans la voix off, c'est justement Fanny. Fanny, au travers du roman, des premières pages jusqu'aux dernières pages, Fanny est présente. Mais elle est présente d'une manière très douce et très calme, dans un espèce de filigrane à la fois des mots et des pensées. Elle est présente chez Lila quand elle arrive au bord du canal. Elle est présente dans les souvenirs qu'il n'ose même plus faire remonter à la surface. Je veux parler de Théo. Elle est présente aussi dans les souvenirs et les images un petit peu de guerre qui remontent à l'esprit de Jean Salia. Jean Salia a violé Fanny. Et elle est présente partout. Et en réalité, Fanny, c'est une voix off, un fil conducteur qui rassure et qui donne effectivement ce côté un petit peu maternel. C'est vrai que Voix off est un roman basé avant tout sur la mère, dans tous les sens du terme. La mère de Lila, la mère de Théo. On pourrait aussi se poser la question, d'ailleurs, j'avais travaillé, mais après j'ai abandonné cet aiguillage, de la mère de Jean Salia. Il y a dû y avoir quelque chose. Et peut-être que Thérèse, d'ailleurs, d'une certaine manière, a joué un certain rôle dans ce domaine.
C'est-à-dire elle l'a aidé.
C'est-à-dire que je pense que Thérèse a un besoin très affectif, physique. C'est évident, quand elle est à la ville avec Oscar, alors que Oscar est encore un véritable ingénieur, les étudiants avec leur chambre d'étudiants sont pour elle une manière d'échapper à la routine et au quotidien. Il faut comprendre dans le roman que Oscar est beaucoup plus âgé que Thérèse. Donc ceci, en partie, physiquement parlant, peut expliquer cela. Mais derrière tout ça, il y a très probablement chez Thérèse une volonté de materner quelque chose. Et lorsqu'elle fait la rencontre de Jean Salia, elle lui dit d'ailleurs, pour comprendre, pour éclairer un peu l'auditeur, Thérèse, et son métier à Thérèse, elle est postière. Et les postières, à cette époque, utilisent ce qu'on appelle l'alphabet de l'administration. Alors, beaucoup de personnes connaissent en France l'alphabet militaire, alpha, bêta, charlie, delta, écho. Et il y a la même chose pour l'administration des postes, en sachant que tout simplement les lettres sont remplacées par des prénoms. A comme Anatole, B comme Berthe, etc., etc. Et Thérèse, qui est postière de son métier, a l'habitude, c'est même plus qu'une habitude, c'est un véritable réflexe, d'utiliser cet alphabet pour épeler les noms propres, la poste française est quand même très précise, et éviter la moindre faute. Et lorsqu'elle raconte Jean Salia, Jean Salia, c'est le prénom Jean, Jean, J-E-A-N, quatre lettres. Mais elle va lui dire que dans ces quatre lettres, il y a quatre hommes, et que c'est là toute sa puissance. Je pense que quelque part, Thérèse a besoin probablement d'un amant physique, mais aussi d'un amour qui soit un petit peu surmultiplié. C'est presque une ogresse, en fin de compte.
D'accord. Et vous nous avez pas expliqué pourquoi le triangle ? Pourquoi cette forme-là ? Et pourquoi est-ce qu'il est poussiéreux ?
Il est poussiéreux, naturellement poussiéreux, parce qu'il y a de la poussière, ça c'est le premier point. Il est poussiéreux aussi dans le fait où il y a un progrès qui est quand même très très limité, très poussif. Voilà. Alors, rien n'évolue dans ce triangle. L'écluse reste une écluse, et d'ailleurs les écluses, la première écluse avait été dessinée par Léonard de Vinci. Vous voyez qu'on n'a rien inventé en la matière. Et aujourd'hui, une écluse, 300 ans après, continue de fonctionner de la même manière. Un principe physique relativement simple. Donc rien ne se passe en réalité dans le triangle. Et la poussière est là. C'est la même chose pour l'auberge. Jean Salia a hérité cette auberge de son oncle, Karl, qui lui-même avait probablement hérité ça de son père ou de son frère. Donc on est dans le même cheminement tout à fait attentif où les gens ne font qu'attendre quelque chose qui ne vient jamais, si ce n'est que l'autocar de la ville quand il y a un colis à déposer ou un passager à débarquer. Ben sinon, le car ne s'arrête même plus. Par contre, le car fait de la poussière.
D'accord, merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, moi, ce que j'en ai conclu sur le roman lui-même, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait dans ce roman beaucoup de choses qui étaient intéressantes et qui relevaient à la fois la psychanalyse, mais aussi du rêve et d'une volonté de faire mieux. Simplement, avant de finir par conclure sur des choses que je voulais vous dire, est-ce que vous auriez une musique que vous auriez envie tout particulièrement d'écouter maintenant, et de faire écouter à nos auditeurs, je vous laisse le dire.
Ah ben, oui,
c'est la tradition. Il y a un texte que j'ai découvert, enfin redécouvert là, tout à fait dernièrement, et qui me ferait vraiment très plaisir. C'est une chanson de Jacques Brel, qui s'appelle « La ville s'endormait ». C'est une chanson qui fait partie de son dernier album, Les Marquises, et avec une écriture absolument merveilleuse, comme savait le faire Jacques Brel, où il dit dans un endroit de la chanson, il dit « Je ne sais qu'on ne meurt pas de hasard, et qu'on meurt en avançant le pas ». Donc, quand on connaît la situation physique de Jacques Brel quand il écrit cette chanson, j'ai trouvé que c'était à la fois d'une justesse remarquable et d'un courage absolument fabuleux. Donc ouais, c'est une très très belle chanson. « La ville s'endormait », j'en oublie le nom.
Alors, on écoute cette chanson de Jacques Brel.
La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi, mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante. Je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. Mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait.
Voici, c'était Jacques Brel de la chanson La ville s'endormait, issue du dernier album de Jacques Brel, qui à l'époque souffrait d'un cancer et qui effectivement a fini sa vie aux îles Marquises, où il avait, je crois, une résidence. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'allais vous dire, Jean-Pierre, j'avais envie de finir, parce qu'il ne nous reste plus, pas plus que 10 à 12 minutes. Dans ce roman, il y a beaucoup de manques. Un manque de mère, un manque d'amour, un manque d'éthique pour certains, un manque de retenue pour d'autres. C'est très intéressant. Mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Il y a beaucoup d'amour. Alors qu'en fait, dans le roman précédent, moi je n'ai que celui-ci à comparer, puisque je ne les ai pas tous lus. Je vais peut-être trouver d'autres choses si j'en lis d'autres. Mais là, dans le précédent dont on avait parlé, qui était Totem Misère, il n'y avait rien de positif, parce que il n'y avait pas vraiment d'amour, enfin si, peut-être du clochard, du SDF vis-à-vis de la femme qui l'héberge, mais elle est intéressée, elle n'est avec lui que pour assouvir sa soif de meurtre sur d'autres, alors que lui est peut-être lui avec un peu d'amour pour un peu d'amour, mais il finit en prison, enfin, et puis il y a des morts, enfin c'est vraiment de la noirceur à l'état brut. Dans celui-ci, une espèce de rédemption dans Voix Off. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle Voix Off. C'est-à-dire qu'il y a un personnage tiers qui serait à la fois, comme je disais tout à l'heure, le chêne, la voix off du début, ou la péniche qui accueille dans son ventre, qui est la mère, comme un personnage extérieur. On ne sait s'il est féminin ou masculin, qui jouerait un peu le rôle de Dieu, qui voit de l'extérieur et qui juge. Cette voix off, ce Dieu, nous laisse rêver des choses, parce qu'il y a les anges, il y a du positif, il y a de l'amour et il y a du rêve. Et il y a aussi du confort au sein de la péniche, de l'accueil. On se rend compte que ce qui est féminin, ce qui est maternel, c'est ce qui donne du positif. On finit par comprendre pourquoi, en lisant votre livre, pourquoi il y a cette idée du péché originel, cette tyrannie des hommes sur les femmes, qui veulent à terme au bonheur et qui y croient, et cette importance qu'a la mère, puisque c'est elle qui apporte l'amour et l'affection au départ et qui peut susciter justement du positif pour la suite. Et on cherche aussi dans ce livre à retrouver le père. Lila, aussi bien que François, cherche à retrouver, qui va se faire appeler Théo ensuite, cherche à retrouver l'image du père, à la restaurer. Au début, c'est la femme qui est punie, puis après, c'est le père qui a fauté, c'est Jean Sadia. Je raconte tout de suite, Lila est dans la péniche, et elle va se venger, elle va faire des avances à Jean Sadia, qui va aller dans la péniche en croyant qu'il va pouvoir lui faire des avances et coucher avec elle comme il l'a fait avec Fanny. Et elle va se venger, elle va lui faire écouter des enregistrements où sa mère, Fanny, raconte ce qui lui est arrivé. et il va rater une marche, il va tomber dans l'eau, il va mourir.
Oui, oui, oui. Mais alors moi, je dirais peut-être les choses un peu différemment.
Oui.
C'est qu'en réalité, Lila, effectivement, Lila n'a pas réellement une idée de vengeance. L'idée de Lila, et c'est pour ça que j'insiste sur ce phénomène d'écluse, l'idée de Lila, c'est de remettre les choses à niveau. De remettre les choses à niveau, au moins sur deux plans. Sur le plan de Théo. Théo qui a été l'amoureux de Fanny, et Théo, quelque part, qui a été, comment je dirais, l'amoureux malheureux, puisque Fanny est partie, alors pour des raisons qui appartiennent à Fanny, et que Nora vous a expliqué tout à l'heure. Et le deuxième remise à niveau, ben, c'est le rapport entre Lila et Jean Salia. C'est clair que Jean Salia, dans le viol qu'il a commis auprès de Fanny, Jean Salia est le père de Lila. Sauf que Lila refuse complètement cette idée de père dans l'idée première, dans l'idée d'appartenance. Alors, je rassure l'éventuel lecteur, Jean Salia n'a pas du tout l'intention d'adopter Lila, hein, rassurez-vous. Mais Lila a besoin de cette confrontation. Alors, une confrontation douce du côté de Théo, elle cherche à le rassurer, Lila cherche à dire à Théo que Théo doit s'aimer.
Oui, elle cherche ça d'autant plus qu'au départ, jusqu'à la fin du roman, ils ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs. Et c'est très intéressant parce que Théo tombe amoureux de Lila, qui est très jolie, comme vous le dites, c'est l'ange. C'est un ange, alors qu'en fait c'est un vrai petit démon. Hein. Comme je disais tout à l'heure, l'ange lumineux, ça reste Fanny, mais je dirai ça après pourquoi. Et il y a l'interdit de l'inceste qui est présent. Mais il ne passe pas le cap.
Oui, bien sûr. Alors, au début, pour Théo, ça paraît totalement infranchissable, cette éventuelle nouvelle relation qu'il croit deviner, qu'il croit ressentir, qu'il se refuse même à imaginer. Il n'en est que dans le stade de la devinette et de la construction possible. L'éclairage naturel, je dirais, l'éclairage sincère qui est donné par Lila, alors peut-être d'ailleurs parce que Lila est très jeune, Lila a tout juste 18 ans dans l'aventure, ben, cette sincérité que Lila lui apporte démontre à Théo qu'en réalité, j'irai pas jusqu'à dire que la vie est belle, mais elle démontre à Théo que la vie est bonne et qu'il faut savoir regarder les choses telles qu'elles sont, ne pas les déformer plus que ce qu'elles sont. Du côté de Jean Salia, c'est un petit peu différent, c'est même à la limite l'inverse. N'oubliez pas qu'une écluse, ça monte et ça descend. Et quand c'est haut d'un côté, c'est nécessairement bas de l'autre. Et Jean Salia, ben, c'est de le mettre face à face par rapport à ses vraies réalités, par rapport à la vraie dimension de ce qu'est l'homme. Voix off a été écrit, à cette époque-là, le mouvement n'existait pas encore. Mais il y a un côté un peu me-too chez Lila par rapport à Jean Salia. C'est de le mettre face à sa réalité abrupte et comment je dirais, abjecte que Jean Salia a pu avoir tant vis-à-vis de sa mère, ça c'est le minima, mais même vis-à-vis d'elle. Voilà. Jean Salia est prêt à tout pour satisfaire ses plus bas instincts. Donc Lila va servir à ça. Alors, le reste après, effectivement, Jean Salia, il va payer cher ce genre de malversation. Il y a peut-être une justice, alors peut-être pas céleste, mais il y a peut-être la justice du canal, il y a peut-être la justice de la péniche, il y a peut-être la justice de la berge qui tout d'un coup se resserre lorsqu'il va tomber à l'eau. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure d'Indochine. Peut-être qu'il y a aussi une justice un petit peu plus humaine et que Indochine, peut-être, parfois, a peut-être eu envie de resserrer les amarres. Voilà un petit peu les complications qu'on peut imaginer sur la fin du roman.
Alors, Jean-Pierre, tu as oublié également Mylène Farmer.
Ah oui, Mylène Farmer. Ah, oui.
Qui cherche à faire passer un message.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, parce que Mylène Farmer, effectivement, alors, on a compris depuis tout à l'heure que voix off, c'est la parole qui appartient à ceux qu'on ne voit pas. Aux objets, bon, j'y crois fortement. Et Lila, elle, d'une simplicité un petit peu plus adolescente.
On va dire que c'est une gamine de son époque.
C'est une gamine de son époque, voilà, tout à fait. Et elle adore Mylène Farmer. Et quand on réfléchit un peu pourquoi avoir choisi Mylène Farmer, ben je pense que Mylène Farmer, d'ailleurs, correspond bien à l'ambiance du roman. Mylène Farmer, c'est quelqu'un qui, pour une certaine génération, et moi j'en fais partie, a des textes qui sont plutôt joliment écrits, mais que j'ai, moi, je le reconnais, moi personnellement, parfois eu du mal à comprendre. Et en même temps, je m'étonnais que certains jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, puissent facilement s'assimiler à ce genre de texte. Et ça démontre bien une chose, c'est que les mots ont beaucoup plus d'importance que ce qu'on imagine, et que la sensibilité des individus n'est pas calquée sur un standard. Naturellement, dans Voix-off, vous trouverez une image d'un canal avec une écluse, avec un garage et une auberge. Bon, c'est des choses anodines, sont des choses communes, sont des choses d'un standard, je dirais, même si Simenon n'aurait peut-être pas osé utiliser ce décor. Mais en même temps, ces choses sont suffisamment belles pour qu'elles soient suffisamment vraies. Et en toute chose qui existe, il existe nécessairement une notion de vérité, une notion de douceur. On a peut-être un petit peu tendance aujourd'hui à l'oublier dans notre société, mais Voix off est une parenthèse sur la vie d'aujourd'hui. Le roman n'est pas daté, bon, si ce n'est qu'il n'y a pas de téléphone portable ni d'internet, et c'est un roman, je dirais, un petit peu intemporel, mais qui représente la vraie, enfin moi, l'image telle que je la vois, la vraie vie des personnes telles qu'elles peuvent aujourd'hui évoluer les unes par rapport aux autres. Et il suffit de peu de choses, d'une jeune fille qui se prénomme Lila, ou même peut-être parfois d'un petit chat qui vient miauler à la porte et qui finira à la fin par s'appeler Théorème. Et dans Théorème, il y a au moins Théo et il y a aussi M. Et pour que les choses se remettent en place, c'est que les choses s'articulent un petit peu mieux.
Merci beaucoup. Alors, je ne voudrais pas terminer avant d'avoir cité une phrase qui m'a beaucoup intriguée, mais on pourrait parler de votre roman pendant des heures. D'ailleurs, je suis persuadée que ce roman-là, et je ne le dis pas de manière gratuite, hein, c'est vraiment parce que je le pense, devrait faire l'objet d'un film.
Alors, on me l'a souvent dit.
Voilà, tout à fait. Je me souviens avoir vu un film qui s'appelait Les Enfants du Marais, du metteur en scène Sébastien Japrisot. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, il serait tout à fait dans cette veine-là, avec un metteur en scène un petit peu comme qui aime filmer un peu la lenteur des choses, puisqu'il y a beaucoup de lenteur dans ce livre, même quand l'action se précipite. Même dans l'action qui se précipite, d'ailleurs, j'allais dire, c'est un roman d'éternité. Et pour explorer des tas de choses sur la mère, l'inceste, le viol, etc. Et même le genre, avec Mylène Farmer, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, Mylène Farmer, dans les années 90, c'est elle qui a été pionnière dans les réflexions que pouvait se faire la jeunesse sur le genre de chacun. Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je peux être humain au-delà d'être un homme ou une femme? Est-ce que je peux emprunter à l'autre, etc. Ces textes, c'est ça. Hein. C'est une réflexion sur le genre. Tout ça, ça pourrait... Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait un film qui se fasse? Je vois déjà les acteurs. Bon, bref.
Il faut lancer un appel.
Lançons un appel. Alors, simplement, j'avais plein de choses à dire parce que j'avais pris beaucoup de notes, mais je vais être obligée de me... À part dire qu'il y a une question de la filiation et d'hérédité dans ce livre qui est très importante, toujours avec votre recherche à vous, Jean-Pierre, au fil de vos livres. Et j'allais dire, il y a une phrase que je veux citer, c'est page 204, « Sans vengeance, il ne peut y avoir d'oubli. » Alors ça, c'est le contraire de ce qu'on nous apprend quand on est petit, qu'on a des parents chrétiens qui nous expliquent qu'il faut le pardon.
Oui, bien sûr, sans vengeance, il ne peut y avoir d'oubli. Mais ça verrouille aussi le petit verre que je disais tout à l'heure sur Victor Hugo. C'est ce rapport entre la haine et le remords. Maintenant, bon, la vengeance, elle peut être effectivement purement physique. J'en reviens une fois de plus sur la démonstration que la société d'aujourd'hui peut donner dans certaines images. Mais il peut y avoir aussi une vengeance qui soit assouvie à travers un acte purement moral, purement mental. On a besoin de faire évoluer les choses. Je crois que le gros danger d'une situation, Si vous prenez le personnage de Théo, le gros danger de Théo, tous les matins il se fait des grimaces devant sa glace. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi se faire des grimaces à soi-même, si ce n'est que pour se punir soi-même? Et lorsqu'on commence à punir, est-ce qu'on n'est pas dans une notion justement de vengeance? Est-ce qu'on n'est pas dans un processus qui consiste à dire ou à reconnaître, mais avec la lâcheté qui fait qu'on ne veut pas le dire, ni le reconnaître, qu'on s'est probablement trompé, qu'on n'aurait pas dû prendre tel chemin, qu'il aurait peut-être fallu parler un petit peu plus à l'un, ou peut-être moins parler à l'autre, insister davantage sur tel point ou sur tel autre. C'est là toute l'histoire de la vie et de l'homme. L'homme a cette faculté absolument fabuleuse de pouvoir penser. Oui, d'accord, mais l'homme a surtout la faculté fabuleuse de pouvoir construire une pensée. Et bien souvent, c'est ça qui manque à notre société d'aujourd'hui, c'est cette notion de construction, cette notion d'évolution. De dire aujourd'hui, je suis là, bon, c'est peut-être pas terrible, mais demain, si je veux faire avancer les choses, alors peut-être que je peux légèrement, je parle pas d'un monde idéalisé, je parle pas d'une utopie, mais peut-être que je pourrais les faire un tout petit peu bouger. Et si demain et demain je continue à faire, peut-être que demain et demain et demain, j'aurai un résultat qui va commencer à se construire, qui va commencer à évoluer. Alors on pourrait parler comme ça pendant des heures, hein, renvoyer sur l'existentialisme de Sartre, où globalement, en trois mots, on peut dire qu'on est ce qu'on a décidé d'être. Mais c'est une phrase qui est trop facile. Si on dit c'est de sa faute, il l'a voulu comme tel, oui, bien sûr, il est responsable de soi-même, j'en conviens tout à fait. Mais c'est pas parce qu'on est responsable de soi-même qu'il faut se contenter de ce que le soi-même a pu donner. On peut peut-être aussi essayer de dépasser un petit peu tout ça et d'avancer un peu dans son propre cheminement. Un peu comme on marche au bord d'un canal.
Très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre. Pour nos chers auditeurs qui iraient marcher sur le canal de Bourgogne, lisez Voix Off avant, ça vous permettra d'avoir des réflexions intéressantes. Ça pourra vous accompagner peut-être sur les chemins de halage. On retient l'idée de l'écluse, qui est une idée très intéressante, cette remise à niveau perpétuel. Et on vous remercie, Jean-Pierre, de bien avoir voulu nous accorder du temps. Et on vous dit, chers auditeurs, à très bientôt.
Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.